Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Eh bien, bienvenue à cette nouvelle Réu de rédaction, Judith et Mathieu.
Bonjour Antoine.
Salut.
Alors mes petits enfants de cœur, la semaine dernière, on est revenu sur L'Exorciste pour la sortie du nouveau film de David Gordon Green, afin de surtout comprendre l'impact du classique de William Friedkin. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de revenir sur les suites, alors que la saga Exorciste est franchement assez amusante à analyser. Parce que, ok, L'Exorciste Dévotion nous promet de rebooter l'univers en étant la suite directe du premier film, mais en fait, toutes les suites de L'Exorciste ont retconné plus ou moins les précédentes tentatives, et pas forcément parce qu'elles étaient pourries d'ailleurs. Et je pense même qu'il y a pas mal de choses à sauver de ces films, à commencer par cet objet improbable qu'est L'Exorciste 2, l'hérétique.
Ah, L'Exorciste 2, peut-être une des suites les plus détestées de l'histoire du cinéma hollywoodien.
A raison.
Ouais, là, il va commencer à y avoir
débat. Deux contre un là.
Qui est vraiment l'archétype quand même du film qui s'est fait démolir à sa sortie, ouais. Et qui par la suite a suscité un genre de culte chez quand même pas mal de gens,
dont toi et moi,
ouais, plus ou moins, ouais. Bah, disons que le film n'est pas parfait, mais il a l'avantage d'être absolument fascinant. Et à commencer par son approche originale, qui est de ne pas faire un film d'horreur, ni même essayer de reproduire l'ambiance du premier film, ce qui n'est forcément pas bien passé. Alors c'est un film qui est réalisé par John Boorman, qui à l'époque sortait de Zardoz.
Autant il mérite de Délivrance.
Voilà. Autant vous dire qu'il était parfaitement placé pour la suite à L'Exorciste. Voilà, bon, ça manque quand même un peu de Sean Connery en slip dans L'Exorciste, mais que voulez-vous. Et oui, donc à l'époque, ce film était le plus gros budget de Warner, ouais, de l'histoire du studio, c'est quand même difficile.
Okay, alors, faut quand même dire, c'est 14 millions de dollars.
14 millions de dollars.
Mais pour l'époque, alors, c'était conséquent.
Budget qui ne devait pas être aussi élevé, loin de là. À l'origine, je crois qu'ils ont, au tout début, ils sont planchés sur du 3 millions. Le budget tel qu'ils l'ont révisé au moment de tourner le film était plutôt de 8. C'est ensuite les nombreux problèmes qu'ils ont eus et sur lesquels on va pouvoir revenir, notamment la volonté d'absolument tout construire en studio qui a fait monter l'addition très très haut pour 30 millions de dollars de recettes, je crois, au box-office.
Ouch.
Ce qui est quand même un beau pas en arrière par rapport au film de Friedkin qui avait cartonné. L'avant-première était désastreuse. Boorman avait, retour du public, a carrément remonté le film, etc.
Ouais.
Et le film s'est fait à peu près détruire par tout le monde, à commencer évidemment par la quasi-intégralité des gens qui ont bossé sur le premier, L'Exorciste. Blatty a dit qu'il s'est marré à la première.
Oui, voilà.
Et il y a, on va parler des sociétés parce que c'est quand même très drôle, tous les commentaires de Friedkin, fidèle à lui-même en interview, qui n'a pas manqué d'allumer à peu près le film et même les gens qui l'ont fait, en traitant notamment John Boorman d'abruti.
Ouais, c'est ça. Mais il a même raconté une histoire qui est assez amusante, mais qu'il a raconté des années après, où soi-disant il paraît qu'ils avaient fait à l'époque des screen tests du film avant sa sortie. Et alors là, je sais pas à quel point il mitonne le truc ou il le fantasme, mais il raconte que des exécutifs l'avaient étaient venus à une des previews du film, et qu'en fait les gens qui étaient là étaient tellement fans de l'Exorciste que quand en fait ils, au bout d'une demi-heure de film, ils étaient tellement en train de péter un câble qu'il y a un mec qui s'est levé dans la salle et qui aurait dit il y a les responsables de cette merde qui sont dans la salle. Et du coup les mecs sont sortis en courant et ils se sont fait courser, enfin ils se seraient fait courser. Et comme je crois qu'ils avaient dit, en fait ils avaient posé leur voiture avec chauffeur qui les attendait, ils leur avaient dit d'aller chercher à manger, donc les voitures qui étaient censées les attendre étaient déjà parties plus loin, et donc du coup ils ont couru dans la rue parce qu'ils se faisaient courser par les gens qui étaient visiblement super vénères que le film soit aussi mauvais. Donc voilà, c'est, ah, bon, après c'est les petites légendes made in Friedkin, donc je sais pas à quel point c'est à prendre au pied de la lettre, mais c'est dire à quel point le film a été vraiment une... Enfin, a reçu un bouche à oreille absolument désastreux à sa sortie. Ouais. Et effectivement, tu parlais de l'avant-première à New York, ça a été, mais à l'époque, considéré comme les gens qui y étaient, mais honteux. Enfin, les exécutifs, tout ça, se sont dit, on a une catastrophe entre les bras, c'est un calvaire, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc?
Oui, Friedkin qui en a rajouté une couche d'ailleurs dans le podcast The Movies That Made Me, où il raconte donc la première fois qu'il a vu, entre guillemets, le film, où ils l'ont invité dans les labos Technicolor à voir un des premiers cuts. Il dit qu'il a tenu à peu près 40 minutes et qu'il s'est barré. Et il dit il qualifie le film dans ce podcast de The Worst Piece of Shit I Have Ever Seen. Donc la pire merde qui m'a été donnée de voir.
Voilà. Oui, juste Linda Blair aussi, elle, du coup, qui est l'un des personnages principaux du film, est revenue, mais en fait, elle dit qu'elle a signé pour un scénario qui n'avait rien à voir, en fait, et qu'elle pensait pas du tout que le film ressemblerait à ça. Et qu'en fait, au moment où elle le tournait, elle a compris ce qu'allait devenir le film et qu'elle s'est dit, mais putain, merde quoi.
Déjà qu'elle avait refusé de remettre tous les maquillages et tout le délire qu'il y avait autour du premier pour pas revivre le calvaire qu'avait été son expérience au premier film, enfin le calvaire, l'expérience éprouvante qu'avait été le premier film, donc il y a une doublure, etc. Mais ouais, carrément, elle aussi, bon, tout la plupart des gens qui ont participé au premier film ont allègrement chier sur cette suite, ouais. qui est, c'est pas étonnant que cette histoire de scénario, puisque le scénario en plus a été remanié un nombre de fois, de la version originale de William Goddard, qui déjà partait dans tous les sens, hein, parce qu'en gros il s'est plus ou moins inspiré de Pierre Teilhard de Chardin, qui était donc un jésuite
ouais,
qui avait beaucoup écrit de philosophie, etc.,
et
de théologie,
inspiré le Père Mérine, justement,
et voilà, qui est un des personnages qui a inspiré Blatty, mais qui du coup partait dans une direction extrêmement cérébrale sur la foi, la façon dont on l'appréhende d'un point de vue psychologique, etc. Script qui a été remanié un nombre de fois pas possible, parfois pour caser des acteurs, parfois par Goodman lui-même, et qui donne voilà ce résultat assez indescriptible.
Mais oui. Mais en fait, en même temps, je trouve que c'est tout le paradoxe du film, c'est que à la base, comme tu le dis, en plus, ils avaient même, Warner planchait plutôt sur l'idée, ce qui se faisait pas mal à l'époque, de se dire, bah, si on capitalise sur l'Exorciste, on fait une suite qui va, à l'époque, les suites rapportaient beaucoup moins souvent que les premiers volets, donc c'était l'idée de faire une suite au rabais, qui était effectivement budgétée à 3-4 millions, ils savaient pas trop où ils allaient avec. Mais dans ces cas-là, tu confies pas ça à un mec comme John Boorman, en fait. Enfin, tu confies pas ça à un auteur qui est à ce moment-là déjà très affirmé et qui a un univers, en fait. Donc, à la base, il avait été envisagé sur le premier. Là, c'est aussi pour ça que Friedkin ayant refusé de faire le 2, parce qu'évidemment, il était le premier choix de Warner pour le faire. Quand ils se sont tournés vers Boorman, Warner à l'époque avait donné un chèque en blanc, en fait, en disant vas-y quoi. Enfin, on te fait confiance, t'as clairement les capacités de faire ce truc-là. Et peut-être qu'ils n'avaient pas vu Zardoz, hein, ou même Deliverance ou d'autres choses. Je pense que après, Boorman a mine de rien un cinéma très, enfin, qui a pu être différent. Deliverance évoque plus pour le coup un truc réaliste à la Friedkin, quelque chose de très glaçant dans le style documentaire. Mais il a aussi ce truc ultra baroque et kitsch qu'il définit et qu'il définira encore plus sur Excalibur et d'autres films plus tard. Ben oui, voilà. Et moi, c'est ça que, à la fois, moi, c'est ça qui me fascine dans l'Exorciste 2. Et c'est là que je me dis, mais ils avaient fumé la moquette chez Warner pour se dire, ça va bien se passer, on lui confie à lui le film.
D'autant que dans les raisons de son refus pour le premier Exorciste, il y a déjà en germe ce que lui considère comme la bonne approche de cet univers-là, quoi. C'est-à-dire un truc entièrement tourné vers une sorte de psychisme un peu délirant. Enfin, lui, ça l'intéressait pas de faire un film d'horreur, quoi. En fait, c'est ça le truc. Et il n'a pas fait de film d'horreur dans la suite.
Mais je pense que ça a dû faire un petit peu office de précédent maintenant pour tous les autres cas où un studio recrute un auteur justement avec une certaine patte pour faire un film de saga comme ça, et finalement se retrouve à extrêmement contrôler son travail et ne lui laisse absolument plus carte blanche. Hein. Je pense que, à mon avis, l'Exorciste 2 a vraiment fait date, on va dire, dans l'histoire de la production cinématographique pour que les studios ne tentent plus jamais un truc pareil.
Ah bah moi je suis même persuadé, parce que finalement on en parle assez peu de ça, mais comme le film est sorti en 77, donc la même année que Star Wars, souvent on considère effectivement, on résume le fameux shift de la fin du nouvel Hollywood et de l'arrivée du blockbuster moderne avec le succès successif des Dents de la Mer en 75 et de Star Wars en 77. Mais finalement, à part La Porte du Paradis qu'on évoque comme la fin du nouvel Hollywood, on parle assez peu des autres types de crash comme ça. Et en fait, L'Exorciste 2, pour moi, c'est un peu la dernière fois qu'un studio majeur comme Warner a un film énorme entre les mains qui est censé être son méga blockbuster, justement, enfin avant qu'on appelle ça comme ça, suite d'un de leurs plus gros succès. Et de confier ça à un réal affirmé, et pas un yes man, mais de se dire on lui fait confiance. Et c'est peut-être l'une des dernières fois que c'est arrivé sur un projet pareil. Et je pense que d'une certaine façon, on peut considérer que L'Exorciste 2 représente une idée de la fin du Hollywood classique, qui faisait confiance à des artisans et des artistes très compétents sur des très gros films pour confier ça à des réals peut-être un peu plus malléables.
Absolument, bah... C'est presque un peu la preuve que à la fin du nouvel Hollywood et cette période-là, c'est peut-être aussi le moment où les studios ont commencé à transformer ces films, ces grands films, en franchise. Et la suite, c'est ça. D'autant qu'ils l'ont fait un peu, pas derrière le dos, mais contre Friedkin et Blatty. Le premier ne voulant qu'un crédit de producteur, il voulait pas revenir. Et Blatty était carrément en conflit à cause de problèmes de profit, je crois. Enfin, il était en conflit avec Warner à cause de ça, donc forcément il n'est pas revenu non plus. Donc voilà, c'est vraiment le studio qui se dit bon bah on n'a pas Friedkin, on n'a pas les deux têtes pensantes de L'Exorciste, comment on fait sans.
Ellen Burstyn ne voulait pas revenir non plus, ouais. Donc il y a Linda Blair qui elle avait accepté, mais du coup il fallait créer d'autres personnages autour, et surtout t'as ce truc bizarre où le film investit une sorte d'interstice bizarre qui est de dire qu'est-ce qui est arrivé au père Mérine dans le hors-champ en fait, de L'Exorciste, parce que tu ne vois pas le père Mérine mourir dans L'Exorciste. Enfin, tu supposes qu'il fait une crise cardiaque parce que ça t'est teasé dans le film tout du long, mais tu ne le vois pas vraiment mourir, en fait. Et tu te doutes que Pazuzu a évidemment a agi là-dessus. Et donc, à la fois, c'est un pur flashback sur qu'est-ce que faisait Mérine avant L'Exorciste, et qu'est-ce qui lui est arrivé pendant le film aussi.
Oui, et du coup le film raconte l'exorcisme psychanalytique en fait de Reagan, qui aurait gardé un petit bout de Pazuzu dans une partie de son cerveau, et qu'il s'agit d'hypnotiser pour débusquer. Et ce qui donne ce paradoxe absolu qui pour moi fait vraiment l'intérêt en fait de ce film-là. C'est que c'est un film qui parle de qui crée un paradoxe entre l'intérieur et le grandiloquent. C'est-à-dire que ça raconte quelqu'un qui se fait psychanalyser, donc finalement la chose la plus simple possible, c'est une discussion dans un carcan complètement délirant. Et c'est un peu, je pense, l'idée qu'a Bourman de ce que c'est que les thématiques du mal, etc. C'est-à-dire une sorte de petit truc que t'as dans la conscience, mais qui peut tout faire dégénérer de façon explosive. Et le côté très baroque en fait du film joue vraiment pour cette interprétation. La photo étant d'ailleurs superbe, la musique étant superbe aussi. Ennio Morricone à la BO quand même. Mais en fait, ce décalage-là est complètement azimuté et forcément a perdu beaucoup de gens en cours de route. D'autant que justement, en voulant garder ce côté minimaliste dans la façon de traiter la possession en elle-même, même les gens vraiment possédés qu'on voit notamment au début n'ont pas de maquillage ni rien, enfin c'est vraiment hyper c'est dépouillé à l'os, alors qu'en parallèle à la fin il balance une bombe nucléaire sur la chambre de Reagan quasiment en temps réel, et
c'est genre la fin est un peu
très bizarre qui est finalement un peu l'étrangeté qu'il y a dans la carrière de Bourman que tu parlais tout à l'heure, quoi, où comment tu passes de Délivrance à Zardos, en fait, ce paradoxe-là, il est dans L'Exorciste 2. Et c'est ça qui fait que c'est assez fascinant, quoi.
Bah, t'as même ce truc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que même stylistiquement, je trouve le film tellement différent de L'Exorciste, parce que pour moi, tu vois, je vois vraiment L'Exorciste comme un film sur une question de débordement. Tu vois, qu'on évoquait justement sur dès l'intro en Irak, avec en plus, bon, évidemment, chez Reagan, la transformation progressive et puis les fluides qui sortent, cette idée vraiment que la maison est. Enfin, que l'idée de la possession se répand de manière presque physique vraiment sur le film. T'as vraiment cette idée du débordement dans l'image, alors que dans L'Exorciste 2, c'est un peu l'inverse. Tu pars d'un truc ultra intérieur, tellement intérieur que là aussi, il est à déchiffrer. Et Bourman le gère, moi, d'une manière que je trouve assez géniale. On parlait de l'inquiétante étrangeté. La semaine dernière, je trouve que c'est peut-être la seule suite de L'Exorciste qui arrive à capter cette idée vraiment du truc intangible qui est caché entre les images. Et lui, il le fait par un truc génial qui le caractérise lui en tant que cinéaste, c'est l'idée de la superposition des couches, autant de l'espace que du temps. Et notamment dans cette scène, pour moi, qui est vraiment le centre du film, donc cette première scène d'hypnose, pour essayer de comprendre, parce que Regan a refoulé complètement le souvenir, en fait, de l'exorciste. Et donc, tu as sa psy qui, en fait, voit les événements de l'exorciste et qui se fait elle-même attaquer par Pazuzu, en fait. Jusqu'à ce truc où Pazuzu lui chope son cœur en surimpression et arrête son cœur. Enfin, il y a un truc... Moi, la scène me terrorise, parce qu'en plus, moi, tout ce qui est cardiaque, ça me fait beaucoup de mal. Et là, voir la main de Pazuzu qui attrape le cœur de cette femme-là en surimpression, il y a ce truc que je trouve extrêmement puissant. Et j'aime beaucoup, voilà, cette manière qu'il a, là, pour le coup, de te dire, vraiment, lis entre les images, lis entre le temps, lis entre l'espace, et ça te donne cette idée assez vertigineuse que là encore, le mal est répandu sur une distance qui est tellement... impossible, c'est cosmique, en fait. T'as vraiment cette sensation de cosmique que t'as pas vraiment dans les autres suites.
Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. Si vous l'aimez, ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
T'as l'idée un peu de fléau, quoi, de plague, tu sais, dans le sens biblique, avec les nuées de sauterelles qui représentent un mal apocalyptique. Enfin, c'est vraiment quasiment un film pré-apocalyptique, quoi, qui est évidemment aux antipodes de ce que Friedkin voulait raconter dans sa petite sphère intime. Parce que dans le making-of, Friedkin loue le script de Blatty en disant que l'intérêt... étant que on démarre dans de grands espaces qui baignent justement dans une ambiance très apocalyptique avec ce coucher de soleil rougeoyant, etc., pour terminer un climax dans une chambre d'enfant minuscule où là se joue la vraie bataille contre le mal. Et le film de Bourman, en fait, il fait l'inverse. Il explose tout, quoi.
Mais alors moi, je trouve que ça a l'air passionnant, ce que vous dites là, les thématiques, la manière dont c'est mis en scène et tout. Mais vraiment, c'est pas le film que j'ai vu. Pourtant, j'étais plutôt séduite, parce que Bourman, moi, en fait, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'avec Excalibur, quand j'étais petite, il a réussi à me terrifier avec des images qui étaient pas horrifiques, tu vois, mais vraiment avec une atmosphère tellement bizarre. Enfin, en tout cas, ce film me fascinait autant qu'il m'effrayait. Et du coup, là, au début, je disais bon. Ça commence de manière un peu chelou, ça a l'air mi-fauché, mi-surréaliste, mi-je sais pas trop quoi, avec Richard Burton qui s'est un peu perdu. Et au départ, je me disais, oh vas-y, je reconnais quelque chose d'Excalibur, let's go, franchement, ça va me faire trop peur, ça va être trop bien et tout. Puis après, non, après, t'arrives sur les images de sauterelles imprimées sur des fonds qui défilent, là, on se croirait. Oui. Mais on dirait la scène, on se croirait dans le dune de Lynch avec le vaisseau maquette qui survole une sorte de.
Ça, c'est vraiment méchant.
Non, mais ça.
Vue subjective de sauterelle, mais enfin, ou la vue, non, t'as plutôt la vue subjective du démon et du coup la caméra qui est accrochée à des pseudo-sauterelles. Mais moi, ça, c'est, je me dis, mais voilà, là, je vois Bourman, là, ça me plaît, il se passe un truc.
Non, puis alors, Regan qui se fait psychanalyser à l'aide d'une machine vraiment que tout cabinet de psychiatre possède, je suppose, qui à l'aide de quelques petites lumières permet à la personne d'en face de lire dans l'esprit de la personne, enfin, bon, admettons. Voilà, c'est un peu bon, c'est un petit peu ridicule. Enfin, je sais pas, moi j'ai quand même du mal à rentrer dedans. Puis après, il y a cette scène du balcon. On se croirait un peu dans un clip MTV du début des années 2000, quand même. La lumière rougeoyante, les colombes CGI qui s'envolent et tout. Enfin, il y a des colombes dans cette scène, je me rappelle plus, je crois.
Ouais. Alors, pas en CGI, je pense à l'époque, mais.
Mais bon, je sais pas.
Petit hommage à John Woo comme ça.
Mais moi, c'est, tu vois, typiquement, tu parles du balcon. Moi, c'est un truc qui me. Cette façon qu'il a de te prendre des images qui sembleraient normales. Et d'y caler tellement ce truc qui voilà, est au bord du surréaliste, parce que bah, aller sur ce balcon d'immenses buildings new-yorkais, et soudainement, t'as cette barrière, et ce truc improbable que n'importe quel architecte digne de ce nom n'aurait jamais posé, il manque un pan de barrière. Mais juste ça, tu vois, déjà, ça te crée un sentiment de malaise, parce que tu as cette idée de l'ouverture vers le dehors, et puis elle, évidemment, qui s'en approche. Mais je trouve que dans la simplicité de l'image, malgré le côté très explicite que ça a, moi, ça me provoque... D'un point de vue purement architectural, je me dis putain, il y a une gêne que ça me crée, que je trouve assez, assez démente.
Une gêne architecturale.
Voilà, j'invente des termes d'analyse.
Non, mais je suis d'accord, je trouve que le film est bancal, je trouve, mais il y a quand même des visions assez fascinantes dedans. Justement, les scènes de psychanalyse sont certes. Enfin, c'est n'importe quoi, mais visuellement, ça claque, il y a vraiment un truc. Mystique, quoi, c'est ça t'emporte. Enfin, moi je trouve, mais en fait, je trouve que ce film il est tellement baroque, et il va tellement à fond dans le n'importe quoi que c'est très personnel ton approche, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme Friedkin où en vrai que tu sois sensible ou pas à la question de la religion, etc. C'est difficile quand même de pas reconnaître la méticulosité de la mise en scène, des idées, et surtout de la façon dont il construit et appuie un récit qui se construit vraiment dans le temps, etc. Alors que chez Bourman, c'est un peu on lâche tout et on voit ce qui marche, tu sais, c'est vraiment...
Est-ce que les pattes collent au mur.
Ouais, c'est ça, voilà. C'était tu balances ta crêpe en l'air, t'attends qu'elle fasse 4 tours et si elle retourne sur sa sur sa lapoelle, ça marche bien quoi. Mais mine de rien, c'est une qualité pour une suite, je trouve, tu vois. Il y allait à fond et on peut pas lui reprocher de pas avoir fait son truc.
Ouais, mais alors justement, pourquoi est-ce qu'il a pas davantage fait son truc à la fin, où je trouve qu'en fait l'exorcisme c'est vraiment une redite en plus vulgaire et en plus gros sabot de l'exorcisme du premier, où là tout à coup comme Regan elle est grande, on peut lui faire jouer vraiment la séductrice plus frontale, on va dire, mais du coup ça n'a pas du tout le malaise que ça a quand c'est à l'époque d'une petite fille qui dit des choses crues. Là elle dit des choses moins crues et en plus c'est une femme qui est plus facilement sexualisable, et tout ça pour en plus voilà finir sur cette espèce d'effondrement de la maison où là je trouve que bah on est un peu dans le fanservice mais d'une vulgarité un peu dingue quoi.
Mais ça je pense c'est un peu la malédiction des suites de l'exorciste qui essaie tellement de se raccrocher au premier d'une manière ou d'une autre que
toujours Warner derrière qui fait tu voudrais pas nous mettre un petit exorciste l'exorciste s'il te plaît.
Et à chaque fois, bon, c'est souvent là que ça pêche le plus. Je suis assez d'accord pour dire de toute façon que là, je suis un peu moins convaincu par le dernier tiers du film, mais
Je suis d'accord sur la scène de l'exorcisme, mais moi la scène où il oblitère la chambre de Regan, comme si en fait la manière dont il avait tout détruit dans le premier, il pousse le truc au max et il pousse les potards de la destruction de Pazuzu, je trouve ça assez amusant et c'est presque une sorte de provocation en fait à l'approche de Friedkin qui moi me fait un peu rire, j'avoue, et en plus je trouve ça techniquement relativement abouti.
Et oui, en plus, ouais, carrément.
Et ça représente, enfin, je trouve que ça représente bien pour finir le film son approche du mal, non pas comme un truc insidieux, mais comme un truc qui se déploie, en fait.
Oui, c'est exactement. Au maximum. Ça, c'est ça. Et qui part d'un truc purement intime pour vraiment se répandre comme une nappe de pétrole. Et je trouve qu'il y a un truc, pour le coup, vraiment apocalyptique dans celui-là.
Ouais, carrément.
Qu'en fait, aucune autre suite de l'exorciste ou préquel ou ce que tu veux n'a vraiment réussi à capter. Et notamment, tu vois, je trouve que dans Dévotion, c'est pour moi l'échec terminal du film, où tu sens l'échelle tellement... elle devrait prendre une ampleur, notamment parce que bah, t'as deux gamines possédées, pas une. Mais en fait, je trouve que le film ne dépasse jamais ce statut purement intime du film, alors que l'exorciste 2, pour le coup, arrive vraiment à te donner cette sensation, moi, je trouve, de vertige... à la fois existentielle et apocalyptique, de te dire mais je suis entouré par le mal et qu'est-ce que je fais. Je pleure et je me mets en boule dans un coin et où j'attends que la maison se détruise, voilà.
C'est ce que beaucoup de spectateurs ont fait.
Non, il faut dire que moi, vous voyez, par exemple, le fait, toutes les visions et l'intro qui se fait en Afrique, c'est pareil, je trouve que ça fait tellement genre on va reproduire l'Irak, mais comme le feront tous les films de la saga en gros font ça, mais on va reproduire l'intro en Irak du premier en moins bien, puis en plus c'est tellement répétitif, et en fait comme le premier, moi, un des défauts que je lui trouve, c'est que je le trouve, pardonnez-moi, mais assez soporifique. Désolé, mais c'est vrai.
Confesse-toi.
Si un jour on fait podcast, on va pas dire ça, sinon personne va nous écouter.
Oui, c'est vrai, pardon. Mais en fait, je trouve que c'est aussi un peu le problème de tous les films de la saga, et notamment celui-là, surtout qu'en plus, du coup, maintenant, tu connais la formule de genre, oui, il y a des visions d'un autre pays, oui, il y a une intro dans un autre pays, surtout qu'en plus, les visions sur les invasions de sauterelles, elles sont tellement répétitives. Et à la fin, oui, il y a un exorcisme que tu as déjà vu, mais en mieux fait. Enfin, je sais pas, je veux dire, en plus de pas aimer le film pour plein de raisons, il m'emmerde royalement, quoi. Désolé.
Est-ce que le mal n'est pas répétitif aussi, finalement? En fait, c'est typiquement le genre de film que tu peux défendre malgré tout, parce que c'est facile, en fait, de dire « Oui, mais finalement, c'est voulu parce que... » Tu vois, oui, du coup, bah, c'est vraiment... Mais en fait, je trouve que c'est ce débat qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui continuent à soutenir... envers et contre tout, et des gens qui le détestent aussi viscéralement, et c'est ce genre de bataille générale autour de ce film, Laurent, je trouve, enfin participe à son aura de trucs un peu bizarroïdes, et je trouve que la façon aussi dont il s'intercale entre l'exorciste et, pour le coup, ce qui est quand même vraiment plus la vraie tentative de suite, enfin du moins la plus aboutie de la saga, donc le 3, c'est ça qui le rend aussi étrange, c'est comme une sorte d'incartade bizarroïde que tout le monde a voulu oublier, mais... qui est là comme une sorte de gigantesque grain de sable dans la botte de Warner, et j'adore.
Et c'est pour ça que moi je pense que je l'aime aussi. Moi j'ai, de toute façon, j'ai forcément un petit amour pour les films un peu cassés, oui, un peu pareil. Comme ça. Moi je pense que c'est ce petit truc. tu vois un petit château abandonné sur le bord de la route, t'as envie de le prendre. Moi, je vois un peu l'Exorciste 2 comme ça, où tu te dis, mais au fond, je t'aime, film, parce que tout le monde te déteste, mais t'as un truc.
Le château, c'est un chat bien vénère. Quoi,
pas très mignon.
Pas très mignon, le chat, mais justement, tu vois, c'est moi, il a une patte en moins, il a été éborgné, mais moi, c'est ça aussi qui me fascine autant. Mais tu parlais de l'Exorciste 3, donc je pense que c'est une bonne façon de passer à l'Exorciste 3, qui effectivement fait peut-être moins débat, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui est assez amusant. Pour le coup, c'est un film qui a pas tant plus que ça à sa sortie, l'Exorciste 3, la suite, comme c'est appelé en français d'ailleurs, la suite, la vraie, mais qui pourtant, maintenant, est un peu considérée par beaucoup de gens comme peut-être la meilleure suite, et surtout comme le vrai légataire de William Friedkin.
Bah, en tout cas, moi, je considère effectivement que c'est la meilleure suite. Et alors, Friedkin aussi devait au départ le réaliser, pour le coup. Il a fini par se retirer du projet parce qu'il ne partageait pas les idées de Blatty, finalement, sur tous les aspects. Et ça, c'est un film aussi qui a vu le jour, parce que c'est William Blatty, encore une fois, donc l'auteur du roman original, qui est monté au créneau pour faire adapter encore un de ses romans. Et d'ailleurs, en fait, il avait commencé par écrire un scénario, et en fait, comme personne n'en voulait, il en a d'abord écrit un roman, qui est devenu un best-seller, et là, on dit, ok, d'accord, tu peux refaire un scénario.
Il s'appelle Légion, du coup.
Voilà, donc le roman, au départ, s'appelait Légion, et donc maintenant, je crois qu'il est publié sous le titre L'Esprit du Mal, enfin, en tout cas, en français.
D'accord. On en revient encore à le du mal dans tous les titres, c'est
oui,
incroyable.
Bien sûr. Et donc, Blatty a essayé de trouver différents réalisateurs. Donc voilà, il y a eu la piste Friedkin qui finalement n'a pas abouti. Mais il a aussi essayé de draguer Carpenter pour qu'il fasse le film.
Ce qui aurait été pas mal, en vrai.
Mais d'ailleurs, Carpenter a été intéressé. Hein, et en fait, ils se sont rencontrés, ils ont eu de longues discussions. Et en fait, Carpenter, c'est lui qui raconte ça, dit qu'en fait, il voyait bien que Blatty avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire, qui n'était pas forcément ce que lui avait envie de faire. Il avait envie, de, pour le coup, de partir dans des élucubrations peut-être un peu plus étranges. Voilà, peut-être à la Bourman, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, il a senti qu'il ne ferait pas le film dont Blatty avait envie et qu'il n'aurait pas la liberté dont il voudrait, dont il avait besoin. Donc, il a fini par abandonner aussi, même si, voilà, sans animosité, hein, le projet lui plaisait. Mais,
on est un peu avant l'ordre de la folie, où là, il a un peu lâché les chiens aussi, à sa manière. Donc, peut-être que ça ressemble plus à ça.
Puis, il sortait à ce moment-là Le Prince des Ténèbres. Et c'est marrant, parce qu'en voyant l'Exorciste 3, je me suis dit, tiens, il y a un peu de Prince des Ténèbres dans l'Exorciste 3, dans le côté très réduit de l'échelle et en même temps, dans la structure de. Là aussi, l'horreur est un peu dehors, mais tu l'aperçois pas vraiment. Et je trouve qu'il y a. C'est marrant pour le coup qu'il soit allé vers Carpenter, parce qu'il y a quand même, pour le coup, un vrai lien de parenté entre les deux films.
Même dans l'ambiance visuelle, etc.
Ouais, voilà,
on retrouve beaucoup de ça, ouais.
Et alors, le film a eu du mal à se faire produire, en fait, justement, parce que Blatty, au bout d'un moment, ne trouvant pas le réalisateur idéal pour le projet, a décidé tout simplement de le réaliser lui-même. Ce qui est. Voilà. Alors, il avait déjà fait un petit film avant, et d'ailleurs, il en a pas refait après, mais je veux dire que L'Exorciste 3 a quand même est quand même vachement maîtrisé en termes de mise en scène. Et
carrément.
Bien joué pour quelqu'un dont c'était pas forcément le médium principal au départ, mais toujours est-il que forcément les studios ont du mal à faire confiance à un projet auquel est déjà attaché un réalisateur sans expérience, ou quasiment sans expérience, même si c'est l'auteur du film. Mais au bout d'un moment, malgré tout, il y a quand même deux boîtes de prod qui sont intéressées, donc Morgan Creek et Carol Co. Elles veulent toutes les deux faire le film, et Blatty, qui a quand même un gros pouvoir de décision, choisit Morgan Creek parce que Carol Co a suggéré l'idée de faire un film autour d'une Reagan adulte qui donnait naissance à des jumeaux possédés. Donc là, là il s'est dit « Oh, bah non, je vais partir avec les autres
!» Ah bah, encore une fois, quelle inventivité du côté de Dévotion, du coup. Bah, wow.
Donc là, on voit bien à quel point c'était parti pour s'éloigner terriblement de l'œuvre de Blatty et de ce qu'il voulait mettre dedans. Donc on se retrouve avec ce film, donc L'Exorciste, la suite, où en fait l'inspecteur Kinderman revient, cette fois-ci sous les traits de George C. Scott, puisque l'interprète original, le nom m'échappe, est mort.
J'ai plus non plus, mais oui, il était décédé. Il était déjà assez vieux dans L'Exorciste 1, donc forcément.
Voilà.
Compliqué.
Donc cet enquêteur se retrouve en fait à étudier les meurtres de The Gemini Killer, un tueur en série qui est en fait mort il y a des années, mais qui manifestement continue à signer des crimes. Et tout ça va l'amener à rencontrer en fait le patient d'un asile psychiatrique qui est finalement le sosie du père Carras, qui est mort dans le premier film et que l'enquêteur connaissait justement, donc il ne comprend pas pourquoi il se retrouve face au père Carras. Et finalement ce père Carras semble être animé par l'esprit de quelqu'un d'autre, joué par Brad Dourif, voilà.
Mais en sachant que c'est déjà un peu bizarre là aussi, parce que à moins que t'aies revu L'Exorciste juste avant, c'est, enfin pour le coup, en ayant vu L'Exorciste 3, La première fois, je m'étais fait un petit récap avant, parce que faut quand même se souvenir qu'effectivement, donc, le Kinderman est un personnage assez secondaire dans l'Exorciste 1. Et surtout, à la fin de l'Exorciste 1, il devient pote, du coup, avec l'ami de Karas, donc le père d'ailleurs. Et en fait, ils deviennent amis à la toute fin du premier film, quand Regan part avec sa mère. Et en fait, c'est ça qui devient la base du récit, c'est qu'ils sont devenus potes et que tous les ans, ils se retrouvent, ils vont au ciné ensemble et puis ils parlent théologie autour d'un café. Et c'est là la base de ce scénario-là. Mais c'est vrai que je me dis, même pour l'époque, qui avait vraiment très envie de voir ça et se souvenait de ces personnages-là et que ça faisait la base d'une suite, c'était un peu ténu comme concept quand même.
Oui, parce que ouais, Kinderman, mais de même, d'ailleurs, il me semble que dans le film, Kinderman dit qu'il avait une bonne relation avec Karas. Que voilà, il lui a proposé un date que Karas a refusé,
oui,
un date au cinéma.
Il a proposé un date.
Donc c'était très ténu aussi. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment un film réussi, donc encore une fois dans la mesure du fait que c'est pas une saga qui me parle énormément et que je trouve que comme les autres, bah il est un tout petit peu soporifique aussi. Mais comme je le disais, là où je trouve qu'il réussit son coup, c'est que bah encore une fois, il fait tout sauf un film d'exorcisme parce que c'est encore une fois bah finalement une enquête policière quasiment plus à la Zodiac un petit peu.
Ouais,
voilà, où c'est passionnant en fait d'avoir cette espèce de pitch de départ de bah il y a des meurtres qui sont commis et signés par un tueur en série mais dont on sait qu'il est mort il y a des années quoi. Donc je trouve ça vachement cool et en plus l'écriture du personnage principal donc Kinderman qui est très très en retrait dans le premier film là surtout avec l'interprétation de George C. Scott en fait qui est un personnage hyper bah mi tête à claque mi fun mi je sais pas quoi mais qui en tout cas qui est vraiment tout en nuances on va dire enfin même quand il tape du poing sur la table donc c'est ça a vraiment quelque chose de rafraîchissant qui est plutôt chouette. Et Jason Miller, bah même s'il a un personnage qui est assez, il joue le type possédé, hein, plus ou moins, qui est caricatural et tout. Et je trouve ça peut-être un petit peu dommage qu'ils aient quand même ramené son personnage, alors que j'aimais bien sa fin dans le premier. Malgré tout, bah sa performance, elle est toujours excellente. Et puis bah celle de Brad Dourif, qui est complètement azimuté.
Brad Dourif, acteur toujours le meilleur. Le voir partout, mais qui n'est nulle part malheureusement.
Oui, non, je te suis totalement. Je trouve que j'ai même été très surpris en le découvrant, l'Exorciste 3, parce que c'était le moment où, comme j'avais en plus cet amour pour l'Exorciste 2, je me disais, est-ce que vraiment le 3 est si intéressant que ça, ou est-ce que c'était pas aussi, comme voilà, Blatty et Friedkin avaient chié sur le 2, une façon de se dire, je reprends possession de mon œuvre et je fais peut-être un truc plus fidèle, mais est-ce que ça va vraiment être bien? Et en fait, j'ai été effectivement très surpris par non seulement la maîtrise de la mise en scène, que je trouve très intéressante, et qui trouve pour moi comme pivot cette idée très belle. Donc quand Kinderman va voir pour la première fois le fameux Jimmy Nightkiller dans sa cellule et que t'as les deux, la lumière qui se projette sur eux alors qu'ils sont dans l'obscurité et que tu as du coup ce shift de visage progressif entre Brad Dourif et Jason Miller pour bien montrer la possession. Et tu sais pas trop d'ailleurs, t'as cette ambiguïté, qu'est-ce que le personnage en face voit par rapport à nous, spectateurs, il y a un truc que je trouve assez beau là-dedans. Et ça fait aussi que là, pour moi, le film se distingue des autres suites de l'Exorciste, parce que du coup, son jeu sur l'horreur et surtout sur comment le mal agit sur l'environnement, mais créer du coup de raccord en raccord un jeu un peu de cette différence. Donc t'as un truc qui était pas là sur le plan d'avant, des trucs qui apparaissent, une statue qui est un peu normale et qui d'un coup a un sourire absolument monstrueux sur le plan d'après. Enfin, il y a un truc dans le jeu du cut que je trouve très intelligent de la part du film et qui, pour le coup, moi, me file pas mal les chocottes.
Bah, puis je trouve que c'est pareil dans le milieu, enfin, en tout cas, dans les bâtiments officiels, institutionnels, que ce soit du coup les hôpitaux ou le commissariat, c'est pareil, on retrouve cette espèce d'atmosphère froide avec une lumière très naturelle qui. Comment dire, où tu peines à imaginer qu'il y ait du fantastique qui vienne s'insérer et qu'en fait c'est ça qui est effrayant. Je pense notamment à la scène de la découverte du corps, enfin quand la police entoure le corps dans la chambre d'hôpital, le corps est sous un drap là, et en fait t'as cette espèce de vue où la caméra est vraiment en plongée, en tout cas sur cette pièce qui est très froide, très blanche, où en fait on n'insiste pas du tout sur la présence d'éléments horrifiques, sur la présence du corps. Il y a cette espèce d'insert sur la peluche, sur la fenêtre, la peluche de manchot, et franchement j'y suis très sensible parce que j'ai la même.
Mais c'est pour ça que tu l'aimes à ce point.
Bah oui. S'il y a mon doudou. Mais où du coup là on retrouve vraiment, je trouve, un petit peu ce qui faisait la sève du premier film et que je trouve on ne retrouve plus, enfin pas dans les autres suites. Et donc je trouve ça hyper fort en fait d'avoir réussi à reproduire une sorte de style sans non plus copier, tu vois, copier éhontément, et réussir à retrouver bah ouais la substance du premier film. Et en fait moi je trouve que le 3 bah il est pas aussi bien que le premier, mais il est pas si loin quoi.
Ouais, non, je suis assez d'accord.
Bah non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Film assez fascinant. Je trouve que peut-être contrairement à toi, Judith, je trouve que le fait de reprendre la suite des aventures, on va dire, entre guillemets, de Père Carras. Justement, après ce grand mystère qu'on a soulevé la semaine dernière sur vraiment son suicide, qu'est-ce que ça représente pour la religion, quoi. T'es possédé d'un côté, donc tu fais un acte héroïque. Tu sauves une gamine que t'as jamais vraiment croisée, parce que tout ce qu'il a croisé, c'est le diable. Mmh. Enfin, pas Zouzou. En même temps, il se suicide, ce qui est un acte passible, normalement, de damnation, je sais pas quoi, dans la religion. Et qu'est-ce qu'il devient ? La réponse à cette question pourrait difficilement être plus intéressante que dans le 3, en fait.
Oui.
Où vraiment, le mystère qu'il y a autour de ce tueur et la possession, etc. Et j'aime particulièrement les scènes de dialogue entre Kinderman et le Jiminy Killer, enfin Carras, du coup, dans sa cellule, là, qui sont superbes. Enfin, je trouve ça assez étonnant, en fait, que Warner... bon, certes, ils ont imposé l'exorcisme final, bien évidemment, parce qu'il faut un exorcisme dans le film d'exorcisme.
Alors, mais... c'est pas dans Légion, dans le bouquin, oui, à la base.
Mais je trouve ça assez étonnant que Warner lui ait laissé l'autorisation, en fait, d'articuler les grands moments forts de son film autour de longues discussions dans une cellule. Enfin, mine
ouais,
de rien,
totalement.
Qui sont assez glaçantes, et ça donne beaucoup à l'interprétation donc, de Miller et de Brad Dourif, qui est vraiment parfait. Non, vraiment, j'aime beaucoup, je le revois sans déplaisir. Il y a vraiment un mystère dedans qui est assez intact.
Mmh. Bah, d'autant que tu parles de ça, mais il y a même une frustration parce que les meurtres au départ, il te les montrera jamais vraiment. T'as vraiment ce côté, le personnage va comprendre qu'il va mourir, mais les meurtres du Jiminy Killer sont jamais vraiment montrés. Et tu vois parfois, et en fait, des fois même ça suffit, l'idée de ce corps vidé de tout son sang avec les petits pots mis à côté du cadavre, et en fait tu verras jamais le cadavre, mais tu supposes que ça a pas dû être une partie de plaisir, et ça suffit, en fait, je trouve, à créer un truc, surtout dans, effectivement, comme tu le disais, ce contexte extrêmement froid et clinique de l'hôpital psychiatrique, avec, pour le coup, assez littéralement ce blanc qui contraste avec le rouge, y compris quand t'as ce prêtre qui voit sa croix pleurer du sang. Je trouve qu'il y a, y a un truc très fort dans l'image que le film arrive à construire.
D'ailleurs, en le revoyant récemment, alors que j'avais détesté la dernière partie la première fois que je l'ai vu, la scène de l'exorcisme final, certes, elle est rajoutée, elle a rien à faire là, et bon, elle est un peu bancale, mais l'approche qu'il a choisie est une des plus intelligentes, je trouve, pour essayer de reproduire, entre guillemets, le petit miracle de l'exorcisme dans une mini-capsule, comme ils ont tous essayé de le faire. C'est-à-dire que c'est un truc beaucoup plus physique. C'est pas du tout la même mécanique, en fait, que dans
le... Il y a des apparitions de serpents et du feu.
Ouais, non, mais en vrai, il a quand même... En sachant très bien qu'il avait pas le loisir d'étaler le processus sur 2 heures, comme l'avait Friedkin, il condense tout ça sur quelques minutes et... il les rend hyper intenses, et en fait ça contraste complètement avec le reste du film qui est hyper posé, etc., et qui, je trouve, distille une vraie peur. Et il y a...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Il y a ce contrepoint qui est apporté avec l'exorcisme, qui certes n'a pas grand chose à faire là, mais je trouve qu'il arrive quand même plutôt bien à s'intégrer au récit. Enfin, on n'est pas dans un grand film malade comme le 2 où tu passes ton temps à te dire ouais, non, mais là quand même il y a des trucs qui ne devraient pas être là, quoi. Là tu vois le film et tu te dis c'est une vraie bonne suite.
Ouais.
Et juste pour revenir un instant, du coup, l'acteur qui jouait Kinderman dans le premier film, c'était Lee Jacob, et donc qui était mort en 1976. Et de même que le William O'Malley, qui jouait le père d'ailleurs, est remplacé par Ed Flanders, du coup, qui n'est pas le voisin d'Homer Simpson, mais presque. Pardon, j'avais très envie de le dire.
Non, mais on a bien compris que tu avais envie d'en arriver à cette punchline.
Et par contre, avant qu'on élabore un peu justement sur cette scène d'exorcisme et du coup les galères de tournage qui ont fait que ça a été un peu rentré au chausse-pied dans le récit, j'ai lu que Friedkin, l'une des raisons aussi pour lesquelles il n'avait pas voulu faire ce film, c'est parce qu'il n'avait pas envie de retravailler avec Jason Miller. Mais j'ai pas réussi à trouver d'autres... Infos,
j'ai lu un truc similaire, mais pareil, j'ai pas creusé plus que ça, donc je sais pas, mais ouais, il me semblait qu'ils n'avaient pas la même vision vraiment de la chose.
Après, j'ai envie de dire plus généralement, avec qui Friedkin ne s'est pas brouillé dans sa carrière.
Vrai, c'est vrai. Ça.
Même Peter Blatty, hein, justement, ce qu'on disait la semaine dernière sur la fameuse scène qu'il a enlevée, Friedkin dit il m'a pu parler pendant quelques années après ça.
Bah,
donc
oui.
Tu fais bon, bah, ok, très bien.
Le mec met des pains dans la tronche de ses acteurs. Et...
oui, voilà, oui, par exemple, voilà, le fait que le mec qui jouait le père d'ailleurs soit parvenu, je peux comprendre pourquoi.
Oui, ouais.
C'est comme ça que Friedkin cohérent. Arrive toujours à se renouveler, il s'engueule avec tout le monde sur le plateau et au prochain film, il y a une nouvelle équipe, du coup, bah forcément. C'est original,
en avant Guingamp.
Ouais.
Et donc yes. Effectivement du coup à la proj au test, évidemment que Morgan Creek a dit, comme le dirait Mathieu, effectivement vous ne mettriez pas un petit exorcisme dans votre film d'exorcisme. donc ils ont re-aligné le budget en fait pour retourner cette scène en plus, parce qu'au départ en fait ça se terminait beaucoup plus facilement, sans trop en dire, le père Kinderman comprenait en fait d'où venait le mal et en gros lui tirait une balle dans la tête vite fait bien fait et voilà. Et sans passer par un exorcisme.
Très bien.
Voilà. Donc déjà que on peut se poser la question de pourquoi le film s'appelle L'Exorciste, là c'est vrai qu'il n'y avait plus aucune raison, donc ils ont quand même insisté là-dessus. Moi je trouve effectivement, malgré les quelques défauts que ça peut avoir, cette manière de forcer une scène dans le récit, je trouve que ça s'en sort pas si mal finalement. Et au moment de la sortie, en fait, ce qui est un peu rigolo, c'est que bah, du coup le film n'a pas énormément bien marché, ça n'a pas été un four total comme le deuxième, mais ça n'a pas été génial non plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le producteur Carter DeHaven et Blatty n'avaient pas envie que justement le film s'appelle L'Exorciste. Parce qu'il se disait, en fait, après le 2, ça va nous couler le film, parce que tout le monde garde un souvenir atroce.
La mauvaise réputation du 2 surpasse la bonne réputation
c'est
du premier.
Ça. Oui, complètement. Et du coup, ils se sont dit, en fait, c'est vraiment un mauvais calcul. Et en fait, au bout d'un moment, bah, les distributeurs n'en avaient rien à faire. Ils ont sorti le film sous le titre L'Exorciste 3. Et au bout de quelques semaines, quand le film commence à se casser un petit peu la gueule au box-office, ils ont dit, mais vous allez pas le croire, en fait, c'est parce que bah, c'est à cause de L'Exorciste 2. Ils se sont dit, mais putain, on l'avait dit.
D'où le fait qu'en France, c'est L'Exorciste, la suite. Voilà. Techniquement, il n'y a pas le 3 dans le titre français. Hein. C'était histoire de dire non, non, non.
C'est vrai. C'est vrai.
Après, je pense pas qu'on puisse dire non plus que le 2 était un four total. Enfin, il a quand même doublé son budget, ce qui, certes, a dû leur faire perdre un peu d'argent, mais c'est pas... Enfin... Je pense pas qu'il se soit vautré totalement non plus, quoi, tu vois.
Oui, donc, mais après, t'es tellement loin des 233 du premier
évidemment
film
que bon, pour eux, c'est quand même. Des sauces absolues.
Ah, oui.
Et alors, même si elle est pas dans le film, Linda Blair aussi avait quelque chose à dire là-dessus, parce qu'elle, au même moment, elle était dans la parodie L'Exorciste Repossessed.
Ah mais si, qui est sortie en France sous un titre des As, genre Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, je crois.
Voilà, donc superbe. Et donc, en fait, L'Exorciste 3 est sorti un mois avant, et en fait, ils ont avancé, enfin, selon ce qu'elle dit, ils auraient avancé la sortie du coup de L'Exorciste 3 parce qu'ils savaient que la parodie arrivait, donc avec Linda Blair et Leslie Nelson, et ils se sont dit mais en fait on va jamais survivre à ça. Donc du
incroyable.
Coup voilà, ils ont un peu et avancé L'Exorciste 3 et a priori peut-être poussé un peu la parodie aussi pour pas que ça se télescope, mais voilà, Linda Blair a été chez les concurrents parodiques à ce moment-là.
Mais on parlait de... Il y a une scène, je pense, sur laquelle il faut qu'on revienne, sur L'Exorciste 3, parce que c'est quand même le truc que tout le monde a un peu retenu du film, et qui en fait aussi, d'ailleurs, peut-être ce petit objet de culte. Il y a un rythme assez lancinant dans le film, qui, pour le coup, je trouve, respecte pas mal l'esprit de Friedkin, tout en étant un film de, bah, voilà, de meurtre plus répété. Donc
qui est cohérente avec la vitesse de déplacement de Kinderman dans le film.
Voilà. Mais qui du coup fait qu'il y a quand même une tension un peu plus importante, je dirais, que d'un point de vue du mouvement par rapport à L'Exorciste original. Mais t'as une scène du coup qui, moi, me terrorise, et je pense qu'il y a pas mal terrorisé les gens à l'époque, où t'as ce plan séquence, enfin qui est juste coupé par un insert à un moment donné, sur ce couloir d'hôpital psychiatrique la nuit, où tu suis une infirmière. Et tu suis juste cette infirmière avec cette petite tenue rouge, là, son petit pull rouge, qui déambule le soir et t'entends juste du bruit. Et la scène est absolument fantastique parce que non seulement t'as toute l'idée de la longueur avec toutes les portes, donc tu ne sais jamais où la menace peut tomber. Et ce qui est absolument fantastique, c'est comment Peter Blatty gère la montée et descente de tension permanente, où tu sais jamais quand le truc peut tomber. Surtout que donc elle attend à l'entrée, elle surveille donc si les patients ont besoin d'elle. Et t'as, comme à ce moment-là, il y a déjà eu plusieurs meurtres, t'as un flic qui traîne dans le coin. Sauf qu'en fait le flic va et revient, s'en va chercher un verre d'eau, donc tu te dis là s'il y a un truc qui doit arriver c'est maintenant. Le mec revient, donc tu te dis bon, en fait ça va. enfin le film gère mais pendant facile quoi, je sais pas, plus enfin plus de 5 minutes cette tension là, surtout que il te fait un faux jumpscare à un moment donné où elle entend un bruit mais en fait c'est juste de l'eau gazeuse dans un verre et puis ça réveille un des patients donc tu sais pas ce qui se passe.
En revoyant, il a été re-efficace sur moi ce jumpscare parce qu'il y a vraiment le truc du elle se penche pour prendre le verre et c'est de là que le mec surgit. Donc vraiment c'est parfait quoi, et le sound design est hyper hyper vénère. J'ai rarement vu un jumpscare aussi violent dans un film des années 90 que celui-ci quoi.
Et du coup et je trouve le film magistral parce que du coup évidemment la conclusion c'est que t'as ce plan de loin, elle est au fond du couloir et soudainement elle a ouvert une porte où elle a semblé entendre un bruit, il y a de la lumière bleue qui émane de là et qui a été utilisée depuis le début du film pour bien te faire comprendre que le mal venait de par là. Elle referme la porte, elle reprend le couloir et soudainement zoom rapide et elle est suivie par une ombre blanche avec des grosses cisailles qui passent juste dans son dos au moment où elle traverse le couloir une dernière fois et là c'est fini quoi, et ça suffit. Et vraiment le truc, cette image qui est devenue même un gif assez connu, enfin tu peux trouver facilement la scène sur internet, mais juste ce zoom rapide avec cette ombre qui passe, mais ça me fait un effet fantastique. Et c'est tellement juste un jeu de yo-yo avec tes nerfs. Je me suis dit qu'il ose, alors qu'il a pas fait de film avant, une scène pareille et vraiment la tenir, tirer l'élastique jusqu'à ce qu'il éclate, c'est absolument fantastique.
Bon, alors du coup, l'Exorciste 3, effectivement, c'était réussi, mais malheureusement, la saga ne va pas s'arrêter là.
Et là, on en arrive au préquel, mon Dieu. Alors du coup, bah, comme en 2000, il y a la ressortie de l'Exorciste qui cartonne avec son director's cut, forcément, Morgan Creek et Warner se disent... bah on va en faire encore. Et à ce moment là ils ont pas de meilleure idée que de se dire les gens ils avaient vraiment bien aimé le père Mérine dans le premier, et si on faisait un préquel sur le père Mérine pour comprendre ce qui lui est arrivé en Afrique. Et donc du coup on en arrive à ce truc improbable où il n'y a pas un film mais deux films, donc L'Exorciste au commencement sorti en 2004 et réalisé par le grand, l'unique Rini Harlin
au crépuscule de sa carrière.
Voilà. Et donc Dominion Prequel to the Exorcist sorti en 2005 et réalisé par Paul Schrader. Donc l'histoire en fait assez improbable de ce truc là c'est que donc Warner lance ce projet là et veut un cinéaste assez affirmé sur le projet. Donc au départ ils prennent John Frankenheimer, pas mauvaise idée sur le papier, sauf que John Frankenheimer est vite très malade et comme il décède d'ailleurs très peu de temps après, en 2002 il abandonne le projet, donc il quitte le navire. Warner cherche quelqu'un d'autre et ils se disent, je trouve assez logiquement finalement, tiens, est-ce qu'on n'irait pas chercher Paul Schrader, parce que Paul Schrader, mine de rien, La Dernière Tentation du Christ, au scénario, Taxi Driver, donc en plus toujours des mecs qui vont pas bien dans leur vie hein, quand même, et qui se posent des questions des fois sur la foi et sur la religion. Donc ils se disent, très cohérent d'aller chercher ce mec-là. En plus, bon, même si tout le monde n'aime pas sa version de La Féline, il a quand même une certaine expérience dans la réalisation et dans l'horreur.
C'est excellent.
Donc
c'est quand même...
Moi, j'aime bien aussi. Il y a des trucs vraiment bien dans
c'est
La Féline.
C'est un peu L'Exorciste 2 de Jack Turner.
Meilleure comparaison. J'adore. Donc, Schrader se retrouve sur ce projet-là avec un co-scénariste avec qui ils écrivent le film. Donc, en l'occurrence, Caleb Carr. Et, alors, mais c'est là que, bon, c'est l'époque aussi hein, où personne ne check ce qu'ils font, en fait. Donc, on les laisse faire leur truc. Donc, ils imaginent cette idée du père Mérine qui, en fait, découvre Pazuzu dans une espèce d'église enfouie au tréfonds de l'Afrique en 1949, donc juste après les événements de la Seconde Guerre mondiale, quand lui a vécu un vrai trauma à cause des nazis qui ont assassiné des gens devant lui et l'ont obligé à prendre des décisions. Qui est-ce qu'on assassine ou sinon on assassine tout le monde. Enfin, la scène est assez horrible pour le coup. Et donc lui a perdu la foi à ce moment-là, donc on renvoie encore à la même structure que celle du premier Exorciste. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois Pazuzu, voilà, dans cette église en Afrique, déjà improbable, enfouie dans la terre, au moment où les colons anglais, en plus, évidemment, eux ne veulent qu'une chose, c'est piller le lieu comme les Anglais savent si bien le faire. Donc on en arrive à cette bascule-là, et Warner voit un premier jet du film, du coup, entièrement tourné par Schrader, et il déteste, et il juge le film totalement invendable. Parce que bah il y a pas vraiment d'exorcisme, enfin il y en a un vers la fin mais c'est quand même très très sobre par rapport à ce qu'on a vu avant. Le film est quand même très cérébral, vraiment très orienté sur le trauma intérieur du personnage de Mérine, donc ils disent le film, il est impossible à gérer. Donc ils demandent des réécritures, ils demandent des reshoots. Schrader aime vraiment pas le processus, mais il accepte plus ou moins d'en faire. Ils prennent d'autres réals pour tourner des trucs. Et vraiment, ils font tellement de projets tests qui sont toutes désastreuses qu'ils se disent « Bon, bah ça marche pas du tout. » Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on enterre le projet, on reprend plus ou moins le même casting, on fait des grosses réécritures du film et on met un autre réal dessus et on retourne le film. Donc ce qui fait qu'à l'époque, il faut quand même se dire que le film avait coûté 35 millions de dollars. Et donc pour en arriver à la version de Rennie Harlin, le budget total est monté à 90 millions. Donc un truc gigantesque pour l'époque. Tout incroyable. Ça pour en plus un truc qui s'est ramassé au box-office par la suite. Et c'est comme ça donc, que Rennie Harlin fait sa version plus ou moins remaniée du même film, avec encore Stellan Skarsgård dans les deux cas pour jouer le père Merrin jeune. Et on en arrive du coup à ces deux versions, puisque du coup L'Exorciste au commencement est sorti en salle. C'est pris une volée de bois vert absolument méritée parce que le film est une catastrophe. Et à tel point que finalement, Morgan Creek a dit « Bon bah ok, on a la version de Schrader, on la passe en festival, les gens trouvent que c'est peut-être pas si nul finalement, donc on va la sortir en vidéo. » Et maintenant du coup, on peut faire le comparo des deux versions, ce qui est assez, assez passionnant.
Et bah résultat, voilà, les deux sont pas bien. Après, sachant que c'est le... Évidemment, parce que du coup, moi j'ai un peu enchaîné, j'ai d'abord regardé Au commencement et ensuite le Paul Schrader. Et évidemment que quand on a vu Au commencement, le Dominion, t'as l'impression que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Parce que oui, Au commencement, c'est particulièrement catastrophique. Il y a absolument rien qui va dans ce film en termes de rythme, surtout. Enfin, moi, ouais. Je trouve pour ça le Paul Schrader à regarder après, c'est vraiment de la pommade parce que là, putain, le film prend enfin un peu son temps de poser des atmosphères et tout et de te raconter une histoire. Le premier, mais il y a aucune ficelle qui tient quoi.
Mais le scénario et enfin les personnages secondaires qui sont très nombreux en plus sont vraiment mis n'importe comment. En plus, du coup, il essaie de te créer un twist. Donc chez Rennie Harlin que t'as pas dans d'autres films exorcistes comme ça où c'est on sait pas trop qui est possédé, c'est genre on suppose qu'il y a gamin qui est possédé mais en fait ah non c'est peut-être pas lui mais du coup c'est qui est vraiment possédé et ça te crée un suspense de merde pendant tout le film pour au final te faire une révélation du ah bah c'est la femme juive qui est possédée
comme par hasard c'est la meuf qui voulait pécho qui est possédée, on s'y attendait vraiment pas du tout.
On se croirait dans Saw quoi, on dirait à la fin il y a pas Zouzou qui va arriver avec une voix de ténor qui va faire en fait depuis le début c'était la femme qui était possédée et maintenant tu dois refléter sur ta vie, est-ce que tu aurais fait ce choix dans le camp de concentration, game over. Non mais c'est ridicule, c'est vraiment ridicule.
La femme possédée qui est jouée par Isabella Scorupco, si je ne m'abuse, qu'on a vu dans Le Règne du Feu, comme on la voit rarement, je pense qu'il faut le dire.
Et la pauvre qui est vraiment maquillée à la truelle et qui est surtout pas du tout servie par des CGI qui sont immondes. Et ça je pense que bon, c'est le truc que tu peux retenir des deux versions d'ailleurs, c'est que...
Plus une que l'autre quand même.
Plus une que Rennie Harlin, c'est vraiment dès le départ avec cette espèce d'intro qui te révèle du coup ce territoire donc, où l'église a été construite, où des gens dans le passé sont allés chercher le mal et leur armée s'est retournée contre elle et du coup tous les mecs ont été crucifiés à l'envers sur un travelling en CGI dégueulasse.
Moi qui aime le kitsch et les visions un peu comme ça, j'aime bien ce plan voilà, ce méga travelling ailleurs sur tous les mecs à l'envers, ils sont genre 300 000, c'est...
Mais l'idée du plan, elle est bien, mais l'image, ça va pas du tout.
Ok, c'est hyper moche, mais...
C'est moche.
Bon, c'est rigolo.
Et tous les CGI des deux versions, en plus t'as notamment cette vision de hyène maléfique dans les deux films qui
sont...
Ah mais
ça, dans le Schrader, c'est hyper drôle, on dirait un YouTube poop.
Ah ouais, non mais...
C'est incroyable, quoi.
On dirait les loups qui débarquent dans Tomb Raider 1, le premier Tomb Raider.
C'est vrai que non, ça... Et même, du coup, c'est ça qui est terrible, c'est que dans Dominion, t'as une menace plus simple qui est esquissée, donc c'est un personnage... de mecs un peu défigurés et handicapés qui le soigne tout le long du film et c'est lui en tant que figure un peu là encore innocente qui se retrouve possédé en cours de route et qui en plus là c'est plutôt malin, a un visage qui colle pas mal avec les visions justement du premier exorciste donc avec ce visage blanc pas exploité qui du coup là devient Pazuzu alors là aussi via du morphing CG très moche le rare moment où c'est utilisé mais c'est beaucoup plus sobre là où au commencement te met du coup cette actrice qui se retrouve la tête en bas avec à s'ouvrir la langue en deux comme un serpent, enfin tu fais ah mais c'est horrible avec vraiment du CG omniprésent pour refléter le côté spectaculaire du truc et c'est dégueulasse.
Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment, tu vois, contrairement à ce qu'on disait sur du coup la froideur et la retenue et le sous-entendu qu'il y a dans le Friedkin ou dans le Blatty, là, on est vraiment dans le que vas-y, je te mets du gore et du spectaculaire tout le temps et tout, alors que le film a pas de quoi assumer cette ambition, genre vraiment pas. Et du coup, là, on perd, il y a une perte totale de sens, d'intention, de filiation de la saga, et on se retrouve avec cette espèce de non-sens dégueu, cette espèce de bouillie générale là, et même à se demander comment Shredder a réussi à faire un peu mieux derrière avec ce type de matériaux, quoi.
En fait, le truc c'est que de base l'idée est nulle. Il l'aurait filé à n'importe qui, il l'aurait filé à Francis Ford Coppola au sommet de sa carrière, il aurait fait un film de merde. Enfin, c'est pas possible.
J'ai vraiment envie de voir ce film.
Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'idée de base est vraiment complètement pétée pour toutes les raisons qu'on a énoncées la semaine dernière sur ce qui fait de la scène d'intro de l'Exorciste une bonne scène. En fait, c'est justement qu'il y a rien dans la si tu lui ajoutes quelque chose derrière, et bah tout cet effet de sidération et de peur, il ne fonctionne pas. Voilà.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Et même, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de ce paradoxe-là de dire finalement le Shredder fait pommade. Ce que n'aimait pas à l'époque Morgan Creek, c'était le rythme du Paul Shredder. Alors que, effectivement, je le trouve bien mieux géré finalement parce que justement il prend son temps et qu'en fait c'est une donnée essentielle de l'Exorciste.
Bah oui, est-ce si que... c'est pas soporifique, c'est pas l'Exorciste.
C'est juste toi qui es narcoleptique en fait.
C'est ça, c'est très possible.
Mais et l'un des reproches qu'il faisait effectivement, c'était l'absence de gore dans la version de Shredder qu'ils ont effectivement. Là, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Rainy Harlin. Hein, de toute façon, ils se sont dit, allez, vas-y, là on y va en mode gros bourrin, let's go.
Ça et moi, à un moment, il y a Samuel Jackson, il se fait posséder comme ça d'un coup.
Et c'est pour ça que t'as une séquence que moi je sauve dans le Rainy Harlin où t'as ce personnage de militaire anglais qui lui aussi vrille petit à petit, et t'as une image qui est peu exploitée chez Shredder où ce mec-là collectionne des papillons dans sa tente, tout ça. Et dans la version de Shredder, juste tu le retrouves mort, ce mec-là, enfin il se tire une balle dans la tête et c'est très froid, mais t'as un truc assez saisissant, mais ça s'arrête là, alors que du coup là tu vois vraiment vriller dans la version Rainy Harlin où il voit les papillons bouger et puis en fait il en a un dans sa bouche et du coup il se cale le flingue dans la bouche et il se tire une balle. Et là je trouve que c'est peut-être un des rares moments où le côté gore du film te saisit un peu, mais après le reste c'est tellement gratuit le reste du temps, notamment le mec qui va voir en tôle qui se suicide devant lui, tu te dis mais ça n'a
en plus il y a un nombre de coups de feu dans la tête des gens dans ce film. Non mais c'est vrai, le nombre de gens qui se font exploser la boule c'est
Ah, mais c'est assez terrible. Et moi tu vois, il y a vraiment un truc que je trouve assez puant dans la version de Rainy Harlin, c'est que t'as tout ce truc structuré autour du trauma du père Merrin. Et qui du coup se ressort avec ce personnage de médecin dont il tombe un peu plus ou moins amoureux et qui elle a été dans les camps et qui est rescapé des camps. Lui, il était aux Pays-Bas et les nazis ont débarqué dans son village, ils lui ont imposé de tuer des gens parce qu'il fallait qu'il tue des gens donc pour retrouver un prisonnier. Donc ils étaient prêts à tuer tout le monde et ils demandent au père Merrin de pointer du doigt les gens qu'il devrait tuer.
En redite du choix de Sophie un peu, genre
oui, c'est ça.
Sophie, version exorciste.
Avec cette phrase pour le coup assez forte mine de rien qui du Dieu n'est pas là aujourd'hui et qui lui fait perdre la foi. Mais ce qui est très bien chez Shredder, c'est que il te le met en scène d'intro, c'est le début du film, voilà, on te pose le trauma du personnage et c'est assez glacial comme scène. Et du coup quand plus tard Merrin à des espèces de cauchemars, toi t'as ce point de vue là et du coup il se permet Shredder des visions un peu plus oniriques, des trucs un peu spé à ce moment là qui renvoient aussi à l'Exorciste original, alors que Rainy Harlin te fait ce truc nul à chier, te dire quand il a les séquences de cauchemars, c'est là qu'on te met des bouts du flashback, on te met le truc en flashback, et alors vraiment avec des images pour moi dans la question de la représentation de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, du le mec tue des enfants et puis on te met une balle dans la tête du gamin qui est au ralenti avec la gerbe de sang qui coule, tu fais mais c'est dégueulasse, enfin de un peu de glamouriser ce truc là qui est vraiment, je trouve, d'une maladresse et d'une vulgarité sans nom, alors que c'est l'opposé total de ce que t'attends de l'Exorciste.
Je suis d'accord, c'est un peu la version hollywoodienne années 2000 du travelling de capot, quoi. C'est non mais vraiment on est pas loin,
ouais,
quoi.
C'est ça, je suis totalement d'accord.
C'est vrai que comme tu dis, le Shredder fait pommade quand tu regardes après, et je pense que sa plus grande idée au film de Shredder, et ce qui le rend fondamentalement meilleur au-delà du rythme, etc., c'est cette scène d'intro qui est vraiment prise comme telle, et surtout dans son intégralité, on a le temps de ressentir le paradoxe qu'il a mis et tout, et de faire de ce traumatisme, qui est le traumatisme d'un choix de religion, qui rejoint un peu ce qu'on avait dit, c'est une des rares fois où ils rejoignent vraiment le premier l'Exorciste du « t'es un prêtre, qu'est-ce que tu fais de ta foi si jamais t'es dans une situation inextricable par rapport au code de la religion, en fait », qui est l'idée pas inintéressante,
ouais.
Et Shredder a l'intelligence de partir de ça pour construire sa narration, là où Harlin en fait un élément de caractérisation du personnage, et c'est là que ça devient catastrophique, parce que du coup, comme tu dis, les événements de la Seconde Guerre mondiale deviennent un trait de caractère, quoi.
Alors que c'était vraiment, je trouve, la grande force de l'Exorciste 1, de dire, est-ce que le nihilisme qui anime une société peut justement avoir un impact sur la façon qu'on a de percevoir la religion ou la foi en général, comment ça désacralise, voire ça les vide de leur sens, ces symboles-là, en fait. Et c'était la question de, est-ce qu'on peut retrouver foi d'une manière ou d'une autre, en fait, dans ce monde-là et dans les symboles qui nous entourent.
Ouais, mais d'autant dans un monde colonial, en fait, ouais, où voilà. Il évolue, et qui est d'ailleurs, pareil, une question à laquelle il s'intéresse, à laquelle ne s'intéressait pas vraiment Fredkin quand il fait son intro en Irak, alors qu'il y a déjà cette dynamique coloniale, en fait.
Et qui est explicité chez Schrader, avec ce truc du... où d'ailleurs les premières victimes dans Dominion sont des mecs qui s'infiltrent dans l'église alors qu'ils devraient pas, parce qu'ils veulent juste récupérer les pierres précieuses qui sont dedans, et que t'as ce truc génial, cette réplique géniale de Meereen que t'as pas dans la version Rainier Harlin, où il dit on va mettre des gardes, enfin un mec lui dit on va mettre peut-être des gardes pour protéger l'église, et il dit c'est vraiment des locaux dont vous avez peur que ce soit eux qui pillent le lieu. Et je trouve la réplique pas mal. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi il y a ce truc qui me dérange profondément dans le film, mais quelles que soient ses versions, en fait, c'est cette idée qu'effectivement le trait de caractère majeur de Meereen, c'est ce trauma qui fait qu'il a cette crise de foi. Mais en fait, dans l'Exorciste 1, t'as ce truc très flou que Friedkin exploite de tu comprends pourquoi il y a cette crise du père Karras par rapport à sa relation à sa mère, par rapport à sa manière aussi de le représenter physiquement, tu vois, avec sa force physique, sa manière de faire de la boxe, de ce combat. Tu sens qu'il y a vraiment un dilemme qui ressort aussi par les séquences plus oniriques que le film évoque à ce moment-là. Alors que pour moi, l'Exorciste au commencement fait un truc très bateau de scénario, qui est ce code de scénario dont je ne sais plus qui est l'auteur, mais qui est ce mensonge auquel le personnage croit. Cette idée qu'un personnage doit avoir une sorte de mantra dans sa vie, qui en fait est le truc qui le retient dans le scénario, et quand il va réussir à s'en libérer, c'est ça qui va lui permettre d'évoluer. Très souvent, tu vois, Frodon, Luke Skywalker, ce que tu veux, c'est des personnages qui estiment ne pas être les héros de leur univers, justement, qui estiment être les petites personnes, tu vois. Frodon estime ne pas pouvoir être le porteur de l'anneau, et il découvre que si, il peut l'être, en fait. Luke Skywalker découvre que oui, il peut être ce héros de la galaxie qui sauve la galaxie de l'Empire, etc., tu vois. Et là, en fait, le mensonge auquel croit Meereen, c'est que Dieu n'existe pas, en fait, cette idée, tu vois. Et je trouve ça assez puant, en fait, comme manière d'exploiter ce truc-là que t'as pas dans l'Exorciste 1, en fait. C'est pas autant un code de scénario qui est exploité. C'est-à-dire que là, c'est un code de scénario qui ne peut amener qu'à une chose, c'est que l'évolution positive du personnage, c'est il croit à nouveau. Et en fait, une ambiguïté que t'as pas dans l'Exorciste 1, en fait.
Comme dans Signe. Tu vois.
Le running gag de cette émission. Mais voilà, tu vois, qui pour moi me pose problème, parce que du coup, tu passes le film à dire, en fait, oui, il va croire, et du coup, tu tombes forcément dans la bondieuserie du « en fait, Dieu, il était là quand même ». Et c'était ça le plus important à se souvenir. Et ce qui fait que au commencement, en plus, tu finis sur ce plan horrible, sur fond vert de lui qui, au Vatican, reproduit le plan de l'Exorciste 1, où il met son chapeau, il a sa valise, et il avance vers le Vatican pour dire « c'est bon, maintenant ». Je suis un bonhomme et je sais faire des exorcismes.
Aussi, c'est horrible. Plan repris dans l'Exorciste du Vatican, hein, et dans tous les succès d'année de toute manière de l'Exorciste. Mais voilà. Oui.
Ouais, mais c'est parce qu'on disait, quand on parlait de l'Exorciste premier du nom, que finalement, c'était un film qui parlait plus du mal que du bien, enfin du diable plutôt que de Dieu. Et en fait, au commencement, enfin la version de Harlin remet littéralement l'église au milieu du village en disant non, en fait, c'est Dieu depuis le début. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a un autre lien avec l'original qui est que la façon d'exploiter cet univers colonial, ça fait évidemment lien avec une des raisons qui a porté au nu le premier Exorciste, c'est-à-dire la prise de conscience généralisée que les Américains, eux aussi, ont une part de mal, en fait, en eux, quoi. Voilà, c'est à travers la guerre, la colonisation, plein de choses, hein. Parce que après la guerre du Vietnam, on remet aussi en question ça. Et le Harlin revient vers la bondieuserie. En fait, il revient dans le droit chemin de la culture américaine. Il remet la saga à sa place. Voilà, un peu comme l'avait fait, dans une mesure encore plus extrême pour moi, le massacre à la tronçonneuse de Legacy Call aussi, là, de Netflix, qui disait mais Toby Hopper, c'est sympa ton truc, mais en fait, quand même, tu trouves pas que les gosses, ils sont un peu woke, tu vois. Genre, c'est un peu ça, tu vois. Bon, de façon moins débile et moins bourrin, mais il y a un peu cette idée là où Schrader, je trouve, reste dans ce carcan là mais en fait il en sort jamais, ce qui rend le film un peu chiant aussi, quoi.
Oui, il faut être très honnête, hein, le film de Schrader est déjà très perfectible et en fait t'as envie de le défendre un tout petit peu parce qu'il a ce côté film maudit qui a voulu être enterré par le studio.
Arrête
et
de vouloir adopter des chatons, Antoine.
C'est mon côté j'aime les orphelins. venez je vous accueille, mais pour le coup t'as envie de défendre le Schrader pour cette raison là mais ça a effectivement ses limites. Quand tu regardes le film, tu fais Ok, tout n'est pas parfait, loin de là.
C'est sûr.
C'est sûr, oui.
Et ça nous en amène à la dernière itération de l'Exorciste avant Dévotion, qui n'est pas un film, mais une série.
Eh oui, aussi étrange que ça puisse paraître, en 2016, la Fox crée une série d'Exorcistes qui compte donc deux saisons. Qui, je pense, je suis le seul à l'avoir vu autour de cette table, non ?
Je dois bien admettre que oui.
et qui a eu, mine de rien, un très bon succès d'estime, au moins. Et qui est, comment dire ? En fait, déjà, c'est une série qui est créée de toutes pièces, qui est la création de Jeremy Slater, donc scénariste qui, à l'époque, avait bossé sur des trucs à peu près défendables et des trucs pas trop défendables, genre Fantastic Four, le remake, la version de... Voilà.
Le Josh Trank.
Le Josh Trank, ouais.
Ah merde.
Donc, c'est assez étonnant quand même que ce mec-là aille voir la Fox pour l'adaptation en série d'un des trucs les plus respectés de l'histoire du cinéma d'horreur. Mais c'est passé. Et la série a eu un relatif succès d'estime. Pour la simple et bonne raison que c'est, selon moi, une version pulp de l'Exorciste. C'est-à-dire que tu commences la série et tu te dis, ah, c'est cool, il y a quelques visions d'horreur cool, etc. Machin. Arrive la moitié de la première saison. Et là, il y a un twist assez tiré par les cheveux, on va dire. Et ça part un peu à volo. Dans le sens, théorie du complot de le Vatican infesté par des gens possédés qui veulent dominer le monde. Enfin, ça part vraiment loin. Les exorcismes en question, il y a une scène où et en fait, ils sont dans l'eau, dans un fleuve, en fait. La personne est possédée et il y a un prêtre, qui est d'ailleurs plus un prêtre à ce moment-là, mais c'est une autre histoire, qui la tient sous l'eau et en fait il bénit l'eau du rivage, quoi, tu sais, la mer. Et du coup, il y a une genre d'onde de choc en CGI.
Oh non.
Et alors, bon, ça va dans tous les sens, alors que à chaque début d'épisode, il écrit Inspired by William Peter Blatty, bon, de très loin, quoi. Mais d'un autre côté, c'est le fait d'assumer justement d'aller aussi loin dans le pulp et de faire des épisodes finalement très divertissants les uns après les autres, qui fait que tu t'ennuies pas, quoi. Franchement, tu regardes un épisode et tu fais, je veux savoir ce qui va se passer après. Parce qu'ils arrivent vraiment, en fait, à prendre ce truc qui paraît être complètement unique en soi, l'exorciste, et à réfléchir à des trucs autour, justement, en se disant on va pas prendre le truc au sérieux, etc. Alors ils reprennent la mécanique de c'est un duo avec un prêtre un peu qui a pas l'habitude et qui doute un peu parce qu'il a une relation avec une femme qu'il n'arrive pas à... un peu comme dans Fleabag, tu sais. C'est un peu d'un prêtre. Et d'un autre côté, il y a le prêtre expérimenté qui est vraiment la version badass qui est très bien interprétée d'ailleurs. La version un peu badass de l'exorciste qui s'en fout de tout et qui se fait excommunier parce qu'il a menacé un autre prêtre qui voyait d'un mauvais œil, qui s'isole tout seul avec un gosse pour l'exorciser. Bref, ça part dans tous les sens. Mais les exorcistes sont assez spectaculaires. T'as une idée assez amusante de quand les gens sont exorcisés, il y a une deuxième pupille qui vient se greffer en dessous de la leur. Voilà.
Attends, quand ils sont maudits ou quand ils
quand
sont
exorcisés possédés.
Ah oui, ouais. D'accord. Ok.
Bon, en fait, il y a différents niveaux de possession. Ils expliquent que t'as la possession que tu vois dans les films, qui est la personne qui progressivement le mal entre en elle.
Ceinture blanche, oui.
Voilà. Voilà. Et après, t'as la ceinture noire qu'ils appellent, je crois, l'assimilation ou un truc comme ça. Et c'est en gros, c'est l'invasion des profanateurs de sépulture, quoi. T'es le diable, mais personne le voit à part.
Ah oui, ça arrive à dissimuler.
Ouais, c'est. Vraiment, il y a un côté, il y a un complot satanique. Enfin, ça va.
Oui,
vraiment.
Très paranoïaque.
Ouais. Et mais il y a aussi quelques bonnes idées. Par exemple, il y a une scène dans la fin de la saison 2 où on voit un exorcisme du point de vue entre guillemets de l'exorcisé. C'est-à-dire que le démon lui montre les deux personnages de prêtres comme des genres de monstres en fait, et il se met à sa place du mec dans le lit qui se fait. Bon, c'est encore une fois, c'est ça part dans tous les sens. Mais c'est des idées un peu délirantes comme ça, mais un peu amusantes aussi. Et voilà, il représente souvent le fameux Captain Audi, tu sais, qui était pas zouzou au début du premier Exorciste. Et donc, le film te montre des apparitions de gens qui enserrent les personnes qui sont possédées. Donc, on adopte leur point de vue dans plusieurs épisodes. Donc, si vous avez une relation très religieuse envers le film de Friedkin, je la conseille pas. Par contre, si tu veux une série d'horreur avec quelques visions, franchement, assez dérangeantes au début de la saison 1, et c'est un peu ce qui m'a donné envie de vraiment continuer, il y a une séquence où une jeune fille, face aux toilettes, sort un mille pattes géant de sa bouche en le tirant, tu sais, de façon très longue. Et alors moi, je déteste les mille pattes. Donc cette scène m'a un peu marqué, j'avoue. Bon, les CGI sont perfectibles forcément pour une série.
Mais ils sont mieux que Dominion.
Ils sont évidemment mieux.
Tout va bien.
Même Spawn, hein, c'est mieux que Dominion en termes d'effets spéciaux. Bon, j'exagère, mais. Mais ouais, ouais. Mais ouais, si t'aimes le côté un peu rigolo qu'il y a derrière, et c'est divertissant. Il n'y a que deux saisons, donc ça se bouffe plutôt bien. Et les comédiens sont particulièrement impliqués, ce qui rend le truc assez cool. Et oui, dans la saison 1, il y a Gina Davis.
Ah!
Dans un rôle central au fameux twist dont je parlais, que je ne vais pas révéler évidemment, mais ça devient vite savoureux.
Ok, bah moi je suis assez vendu là du coup. Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour et c'est trop bien qu'on ait pu parler de toutes les suites de l'Exorciste parce qu'il y a quand même, comme quoi, des choses assez passionnantes à dire et je pense que ça ferait un super classement et de super articles pour revenir sur tous les films, notamment sur les productions chaotiques qu'elles ont plus ou moins toutes eues.
Et puis il y en a bientôt d'autres.
Non, ne dis pas ça. Je vais me mettre en boule dans un coin après ça. Mais je me dis surtout que ça ferait évidemment un super sujet de podcast le jour où Écran Large se décidera d'en faire un. Et si un jour on fait ce podcast, ce qu'il faudra vraiment, vraiment qu'on fasse, on en parlera à la direction, il faudra rappeler aux auditeurs de s'abonner, de le partager, de mettre 5 étoiles sur le rapide écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que c'est ça le plus important.
Oui.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.